Entrez donc dans la danse des Midi de Culture. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, comme promis, je serai avec les frères Dardenne. Mais tout de suite, c'est le point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, Marie, s'il vous est déjà arrivé dans votre vie de fréquenter les restos routiers.
J'ai une longue vie avec les restos routiers.
Ce sont ces restaurants qui accueillent les chauffeurs et proposent des menus complet dans une ambiance simple et chaleureuse. Mais le photographe Guillaume Blot, lui, s'est attaché pendant des années à documenter ces espaces de vie collectifs en voie de disparition. L'hommage photographique au resto routier, c'est le dossier du Point Culture du jour. Guillaume Blot, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Vous êtes photographe, documentaire et après vous être intéressé aux buvettes en 2015 puis avoir fait le tour de France des bistrots avec Rad en 2018, vous publiez votre nouveau livre qui s'intéresse cette fois-ci aux restos routiers. Alors on en comptait 4500 dans les années 70, il y en a plus que 700 aujourd'hui. Est-ce que vous avez voulu documenter un monde qui est en train de disparaître ?
Oui, tout à fait. Alors disparaître, j'espère pas, mais en tout cas de documenter une vie dans les restaurants routiers qui est vraiment haute en couleurs. J'ai vraiment pu passer à peu près 6 années sur les bords de route à prendre le temps de bien manger déjà et puis de rencontrer des conductrices, conducteurs et de vraiment l'idée c'était avec ces photographies, c'est de raconter des histoires de vie pour vraiment raconter ces héroïnes et héros du quotidien.
Alors quand vous dites 6 ans en immersion dans les restos routiers, ça ressemble en fait au travail de terrain d'un anthropologue. Quelle est votre méthode de travail ? Comment vous choisissiez les endroits où vous vous arrêtiez ?
Pour aller vraiment sur le terrain et trouver les restos routiers, j'avais à la fois une application qui s'appelle Truckfly, qui me permettait de me géolocaliser en France et qui est très utilisée par les routiers aujourd'hui. Évidemment, le guide rouge et bleu iconique que l'on connaît tous, c'est les routiers. Et puis surtout, le bouche à oreille, à droite, à gauche, en fonction de mes rencontres, j'avais la chance d'avoir des recommandations pour aller dans les plus jolis et les plus authentiques de nos relais routiers.
Qu'est-ce qui vous attirait d'abord dans un resto routier ? Par exemple, dans le livre de photos que vous venez de faire paraître, on voit un certain nombre de façades ou d'enseignes. Est-ce que c'est aussi l'impression en arrivant qui vous faisait arrêter quelque part ?
Oui, évidemment, il y a toute cette iconographie, toute cette grammaire visuelle qui m'attirait l'œil quand je me baladais avec ma blotte mobile, mon petit van l'été surtout. Et ça m'encourageait vraiment à m'arrêter avec mon tout petit camion auprès des grands camions que je croisais sur les parkings XXL et ensuite de pousser à la porte et d'arriver au comptoir, d'écouter, de regarder. Et puis dans le second temps, de sortir l'appareil photo. L'appareil photo est vraiment caché dans le sac dans un premier temps pour pas être trop violent dans mon approche, une approche toute douce. Et ça permet de gagner la confiance et vraiment de me faire intégrer par la communauté présente.
Mais justement, sur cette méthode de travail de documentariste, à quel moment vous dites que vous êtes photographe ? Est-ce que vous expliquez votre projet aux gens ?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est de ne rien cacher, évidemment, surtout que je photographie au flash, donc je suis très visible. L'idée, vraiment, de quand je suis au comptoir, de poser des questions, d'écouter. L'idée derrière, c'est vraiment de raconter les histoires qui s'y déroulent devant mes yeux pour valoriser et raconter ces histoires de vie, ces héroïnes et héros du quotidien, du tous les jours. Et donc, c'est une fois que j'ai l'accord de faire des images de la part des patronnes et patrons que je commence à faire des portraits, à photographier des détails, des scènes de vie, des devantures comme vous le disiez tout à l'heure.
Ils étaient surpris, les gens, que vous vous intéressiez à eux, à ces restaurants routiers, que ce soit d'ailleurs du côté des patrons que des côtés de ceux qui viennent manger dans ces restos-là ?
Oui, plutôt, puisqu'ils ne trouvaient pas forcément cela hyper photogénique. Mais tout mon travail s'évertue à ce que j'appelle raconter et photographier le merveilleux banal, entre guillemets, tout ce qui est quotidien, qui est même parfois trop quotidien, qui fait qu'on ne le voit plus. Et mon travail avec le flash, notamment, c'est de rehausser, de mettre en lumière pour que l'on voit toute la poésie, on va dire, du quotidien de nos relais routiers.
Alors, vous photographiez autant les gens que les lieux. Hein. On a des gros plans sur une salade de surimi, par exemple, des affiches de menus en vitrine, des enseignes, j'en parlais. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les images de ces routiers attablés, tous dans la même direction. On dirait presque des salles de classe, mais ils sont souvent très seuls à table chacun.
Il y avait deux versions quand je suis rentré, en tout cas, dans les restaurants routiers. Il y avait des grandes tables où les chauffeurs, chauffeuses se mettent bout à bout les uns après les autres pour vraiment créer un côté collectif du repas. Et également, j'ai pu observer donc ces formes de salles de classe avec des pupitres, sa table finalement alignée, tous face à la télévision qui était en face d'elle et eux. Et ça crée des moments un peu particuliers, je dois l'avouer, ces solitudes agrégées qui se font côte à côte.
Mohamed El-Khatib, qui signe l'une des préfaces de votre livre, dit qu'un des points finalement essentiels que l'on voit dans vos photographies, et je suis d'accord avec lui, c'est l'hospitalité. C'est peut-être ce qui manque aussi dans beaucoup d'autres endroits de restauration. Mais dans ces restos routiers-là, vous avez photographié l'accueil finalement de ces routiers qui sont très souvent très seuls dans leur camion pendant des longues heures de route.
Oui, il y a vraiment dans ces espaces une chaleur humaine, la joie de se retrouver. Le midi, l'après-midi, le soir, autour du comptoir et des différentes tables et du buffet, la plupart du temps à volonté. Le tutoiement, il est généralisé, ça fait du bien de pouvoir se poser, de se faire appeler par son prénom, d'avoir un petit peu ses habitudes. Et je pense que c'est ce qui plaît autant en tout cas, ces conductrices et conducteurs qui s'arrêtent pour se sentir considérés là où ils veulent manger. C'est un peu comme une seconde maison pour eux.
Vous employez le féminin et le masculin, hein, conductrice et conducteur. Vous avez croisé aussi beaucoup de femmes qui font ces professions-là, de routiers.
Alors, il y a très peu, malheureusement, de femmes que j'ai pu croiser. Elles sont à peine 5% dans le transport de marchandises aujourd'hui. Donc, l'idée aussi de ce travail, c'était de les rendre visibles. Et donc, c'est important pour moi d'utiliser le féminin et le masculin pour raconter une entièreté et que tout le monde se sente à l'aise dans ces espaces de vie.
Peut-être plus généralement, et pour finir cet entretien, Guillaume Blot, qu'est-ce qui vous intéresse finalement dans ces immersions dans les lieux de la culture populaire française? Je parlais des buvettes, un de vos précédents projets, ou Radin, où vous avez photographié les bistrots de la France entière. Est-ce qu'il y a, de votre part, une volonté de réhabiliter ceux que certains méprisent?
Disons que je me fais plutôt un passeur, et le flash et mon travail photographique permet simplement de raconter une réalité, de mettre la lumière sur peut-être des lieux qui sont un peu moins médiatisés. Et la photographie permet de raconter des histoires de vie, que d'endroits où on a pu déjà aller toutes et tous, qui nous ont fait du bien. C'est des lieux de sociabilité, de proximité, qui sont vraiment nécessaires dans un quotidien. Et l'idée de mon travail, c'est vraiment de raconter en images, en mots, en sons aussi parfois, ces vies autant en couleurs.
Parce que quand on regarde ces livres-là, moi je trouve qu'ils ont quand même une portée politique. Est-ce que c'était votre intention ou est-ce qu'ils le sont malgré eux?
Ils sont politiques, bien sûr. Ce sont des espaces en voie de disparition avec l'érosion du nombre d'établissements. Et l'idée, c'est en les racontant, en faisant des photos de détails du quotidien, d'encourager tout à chacun, chacune à y aller. C'est le meilleur moyen pour les faire perdurer.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Blot.
Merci, Marie-Sorbet.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, l'ancienne basilique Sainte-Sophie a entamé des travaux d'envergure.
Oui, à Istanbul, le dôme, la coupole et la structure de la basilique devenue une mosquée doivent être restaurées. Le grand tremblement de terre qu'a connu la Turquie et sa région en 2023 font craindre pour l'intégrité du bâtiment construit il y a 1500 ans. La coupole ne sera plus visible pendant le temps des travaux puisqu'elle va être recouverte d'une bâche, mais Sainte-Sophie pourra néanmoins continuer à accueillir fidèles et visiteurs pendant le chantier.
L'Opéra de Paris aura sa propre maîtrise de chanteurs lyriques.
Les élèves de plus de 12 ans inscrits en classe à horaires aménagés auront accès à une formation à la musique et aux arts de la scène, a communiqué l'Opéra de Paris, qui va accueillir une cinquantaine d'enfants et d'adolescents. Ils vont perfectionner leur voix, leur expression théâtrale et pourront s'illustrer sur les plateaux, puisqu'il est prévu qu'ils participent à la programmation lyrique sur les scènes du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille. L'institution doit encore trouver un chef de chœur pour orchestrer ce cursus qui ouvrira à la rentrée 2026.
Et pour finir, Marie, les films du Festival de Cannes ne sont pas diffusés qu'à Cannes.
Oui, et c'est quand même une bonne nouvelle. Ce week-end, 7 villes, Paris, Boulogne-Billancourt, Nice, Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse vont proposer en avant-première dans les cinémas Pathé 13 des films diffusés sur la croisette en ce moment, dont certains en compétition pour la Palme d'Or, comme Un simple accident de Jafar Panahi, Dossier 137 de Dominique Moll ou encore La petite dernière d'Avia Herzi. On peut aussi découvrir The Chronology of Water, le premier long métrage de Kristen Stewart dans la sélection Un certain regard, ou des films hors compétition, tels que La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat avec Isabelle Huppert. Et vous retrouverez bien sûr le programme complet sur la page du Point Culture.
Merci Marie. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles.
À lundi.
À lundi. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.